Alors donc, le duo, disons habituel, c'est la seconde fois. Françoise Labrette et moi-même, nous allons vous présenter donc deux nouvelles soigneusement choisies dans la production importante de deux grands écrivains italiens que nous apprécions beaucoup et que vous connaissez bien, vous avez le nom sous les yeux, Luigi Pirandello et Antonio Tabucchi. Alors, deux nouvelles, on les a choisies symboliquement, si on peut dire, parce que la première montre vraiment le côté sombre de la vie. Vous allez comprendre pourquoi. Et la deuxième est véritablement baignée de lumière. Bon, voilà, déjà, vous avez une petite idée. Moi, je vous lirai la première nouvelle de Luigi Pirandello. Enfin, je vous lirai, c'est un duo. Hein. Bon, c'est moi qui commence. Luigi Pirandello, bon, je vous rappelle tout simplement qu'il est né en Sicile en 1870 et que généralement, son théâtre est beaucoup plus connu que ses nouvelles. Tout le monde connaît Pirandello pour son théâtre, ne serait-ce que pour 6 personnages en quête d'auteur. Cependant, ses nouvelles, même si elles sont moins connues, elles sont souvent tout à fait remarquables, notamment parce qu'elles ont une forme parfaite, un petit peu à la manière de Maupassant, par exemple, hein, cette espèce de beauté formelle et de Tchekhov. Et elles sont très riches aussi en analyses psychologiques extrêmement fouillées. Et on peut dire qu'il a mis beaucoup de lui-même, de sa propre vie intime, personnelle, maritale, extrêmement tourmentée. Alors, son projet était... Bon, évidemment, c'est pour ça qu'il parle de l'amour avant tout, même pas tant des paysages. Son projet, donc, à propos de ses nouvelles, qui sont donc moins connues que le théâtre, était d'écrire des nouvelles pour un an. Alors, il avait le projet, donc, 365 nouvelles, pour le chiffre symbolique, etc., 365 jours. Mais il meurt à Rome, en 1936, sans avoir pu mener à bout cette tâche. Mais il en a quand même écrit 240, qui sont souvent vraiment ce qu'on appelle des bonheurs de lecture. Alors, nous avons choisi parmi ces courts chefs-d'œuvre, Con gli altri occhi, ça veut dire avec d'autres yeux, que nous allons vous lire dans la traduction française d'une certaine Aurore Ménéla Gramont. En réfléchissant, je me rends compte que ce n'est pas une très bonne traduction. Tout, rien à voir avec la deuxième traduction que nous aurons. Bon, mais on a trouvé celle-là, donc voilà. C'est assez lourd. Et Pirandello, il traite alors l'un de ses thèmes privilégiés, l'amour. Mais l'amour qui est vraiment du désamour, du non-amour. Et un amour souffrance, amour trahi, des amours malmenés, jalousie. Il avait une femme abominablement jalouse qui a d'ailleurs terminé ses jours en asile psychiatrique. Il en a été marqué pour la vie. Et il a d'ailleurs présenté ses nouvelles de ce titre éloquent, Amori sans amore, les amours sans amour. Voilà, ça ne nous paraît pas très gai, mais... Nous allons rentrer dans une histoire profondément poignante. Écoutez.
Par la vaste fenêtre ouverte sur le petit jardin en terrasse de la maison, on voyait, comme posé sur l'azur vif de la matinée fraîche, une branche d'amandier en fleurs. Et on entendait, mêlé au clapotement rauque et discret du petit bassin situé au milieu du jardin, le carillonnement joyeux des églises au loin et le piaillement des hirondelles ivres d'air et de soleil. En s'écartant de la fenêtre avec un soupir, Anna se rendit compte que ce matin-là, son mari avait oublié de défaire son lit, comme il en avait l'habitude à chaque fois pour que les domestiques ne s'aperçoivent pas qu'il n'avait pas couché dans sa chambre. Elle appuya alors ses coudes sur le lit intact, puis elle s'y étendit de tout son buste, posa sa belle tête blonde sur les oreillers et fermant à demi les yeux, comme pour goûter à travers la fraîcheur du lin le repos qu'il y prenait généralement. une volée d'hirondelles désordonnées fila en piaillant devant la fenêtre. « Il aurait mieux valu que tu aies couché ici, » murmura-t-elle. Elle se releva lasse.
Son mari devait partir le soir même et elle était entrée dans sa chambre pour préparer son nécessaire de voyage. En ouvrant l'armoire, elle entendit une sorte de crissement dans le tiroir intérieur et elle recula immédiatement, apeurée. Dans un coin de la chambre, elle attrapa une canne à manches recourbées et, serrant sa robe entre ses jambes, prit la canne par la pointe et essaya de l'utiliser pour ouvrir le tiroir du bas. Mais en tirant au lieu du tiroir, c'est une lame brillante dissimulée qui se dégagea sans effort de la canne. Elle ne s'y attendait pas. Elle en frissonna de dégoût et laissa tomber le fourreau de l'épée. Du pied, elle repoussa l'arme nue et tira hors des deux portes ouvertes le tiroir plein de vieux vêtements que son mari ne portait plus. Prise d'une soudaine curiosité, elle se mit alors à fouiller le tiroir et en reposant une veste usée et passée, elle sentit dans l'ourlet sous la doublure une sorte de petit carton qui avait glissé jusque-là depuis la poche de la poitrine trouée. Elle voulut voir ce qu'était ce papier tombé et oublié là depuis qui sait combien d'années. C'est ainsi que, par hasard, Anna découvrit le portrait de la première femme de son mari.
Elle pâlit. Sa vue se troubla. Son cœur s'arrêta. Elle courut à la fenêtre où elle resta un moment, stupéfaite, à fixer l'image inconnue presque avec effroi. La coiffure volumineuse et la robe démodée l'empêchèrent dans un premier temps de remarquer la beauté de ce visage. Mais dès qu'elle put en isoler les traits, en faisant abstraction des vêtements qui, aujourd'hui, après tant d'années, semblaient grotesques, et en fixer les yeux en particulier, elle se sentit presque offensée et un élan de haine bondit de son cœur à son cerveau. Une haine de jalousie posthume, la haine mêlée de mépris qu'elle avait éprouvée pour cette femme quand elle était tombée amoureuse de l'homme qui était aujourd'hui son mari. 11 ans après la tragédie conjugale qui avait détruit d'un coup son premier foyer.
Anna avait haï cette femme, car elle ne parvenait pas à comprendre comment elle avait pu tromper l'homme qu'elle-même adorait aujourd'hui. Et en second lieu, parce que sa famille s'était opposée à son mariage avec Brivio, comme s'il avait été responsable de l'infamie et de la mort violente de sa femme infidèle. C'était elle, oui. C'était elle, sans aucun doute, la première femme de Vittore, celle qui s'était suicidée. Elle en eut confirmation en lisant la dédicace écrite au dos du portrait à mon Vittore son Almira, 11 novembre 1879.
Anna n'avait que de vagues informations sur la morte. Elle savait seulement qu'après avoir découvert sa trahison, son mari l'avait contrainte avec l'impassibilité d'un juge à se suicider. À ce moment, elle se rappela avec satisfaction cette condamnation par son mari. Irritée par ce mot et ce son de la dédicace, comme si elle avait voulu afficher ainsi la force du lien qui les avait unis, elle et Vittore, uniquement pour la contrarier. À ce premier éclair de haine, instillé par une rivalité qui désormais n'existait plus que pour elle, succéda dans l'âme d'Anna la curiosité toute féminine d'examiner les traits de ce visage. Mais elle se sentait presque retenue par l'étrange malaise qu'on éprouve à la vue d'un objet ayant appartenu à une personne disparue tragiquement. malaise plus vif en cet instant, mais qu'elle connaissait bien, car tout l'amour qu'elle ressentait pour son mari, qui avait déjà appartenu à cette autre femme, en était imprégné. En examinant le visage, Anna remarqua tout de suite à quel point il était différent du sien. Et d'un seul coup, une question jaillit de son cœur. Comment son mari, qui avait aimé cette femme, cette jeune fille certainement belle à ses yeux, avait-il pu ensuite tomber amoureux d'elle si différente ?
Même à elle, ce visage qui paraissait mat sur le portrait semblait beau, bien plus beau que le sien. Oui, et ses lèvres s'étaient unies à ses lèvres à lui dans des baisers. Mais pourquoi donc ce pli douloureux aux commissures des lèvres ? Et pourquoi tant de tristesse dans le regard de ses yeux intenses ? Du visage tout entier émanait une profonde douleur. Et Anna fut presque contrariée de la beauté humble et vraie de qu'exprimaient ses traits, et elle eut un mouvement de répulsion et de dégoût lorsqu'elle crut tout à coup distinguer dans les yeux, dans ses yeux, la même expression que dans les siens. Quand en pensant à son mari, elle se regardait dans le miroir le matin, après s'être coiffée.
Elle eut à peine le temps de fourrer la photographie dans sa poche. Son mari se présenta en soupirant à l'entrée de la chambre.
Oh, qu'as-tu fait ? Comme d'habitude, tu as rangé. Oh, pauvre de moi ! Maintenant, je ne vais plus rien retrouver.
Puis, en aperçant l'arme dégainée par terre,
ah, tu as aussi fait de l'escrime avec mes complets.
Et il rit, de ce rire qui partait seulement de la gorge, comme si on la lui avait chatouillée. Et tout en riant, il regarda sa femme, comme s'il lui demandait la raison de son propre rire. En la regardant, ses paupières ne cessaient de battre à toute allure sur ses petits yeux noirs, perçants et inquiets.
Vittore Brivio traitait sa femme comme une enfant, uniquement capable de cet amour naïf et presque puéril dont il se sentait entouré. Anna avait laissé tomber la vieille veste dans laquelle elle avait trouvé la photographie à ses pieds. Il la ramassa en la piquant du bout de l'épée, puis appela par la fenêtre son valet, qui faisait également office de cocher, et qui était dans le jardin en train d'attacher le cheval à la voiture. Dès que le jeune homme se présenta en manche de chemise dans le jardin devant la fenêtre, Brivio lui jeta la veste en pleine figure, de manière impolie, en accompagnant son aumône d'un « Tiens, c'est pour toi !» Comme ça, tu auras moins à brosser, ajouta-t-il tourné vers sa femme, et à ranger, espérons. Et de nouveau, il eut ce rire forcé, ses paupières battant à plusieurs reprises.
Son mari avait déjà quitté la ville plusieurs fois, et pas seulement pour quelques jours, partant de nuit comme cette fois-ci. Mais Anna, encore sous le coup de la découverte de ce portrait, éprouva une étrange peur à l'idée de rester seule, et elle le dit à son mari en pleurant. Vittore Brivio, pressé par la crainte d'être en retard et entièrement absorbé dans la préparation de ses affaires, accueillit de mauvaise grâce les pleurs insolites de sa femme. « Comment ? Pourquoi ? Allons, allons, pas d'enfantillage !» Et il s'en alla précipitamment sans même lui dire au revoir. Anna sursauta en l'entendant claquer violemment la porte derrière lui. Elle resta là, dans la petite salle, la lampe à la main, et sentit ses larmes se glacer dans ses yeux. Puis elle se ressaisit et se retira à la hâte dans sa chambre pour se mettre immédiatement au lit.
Dans la chambre déjà rangée, la veilleuse était allumée. « Va donc te coucher, » dit Anna à sa femme de chambre qui l'attendait. « Je me débrouillerai toute seule. Bonne nuit. » Elle éteignit la lampe. Mais au lieu de la poser sur la console comme d'habitude, Elle l'a mis sur la table de chevet, pressentant, bien malgré elle, qu'elle en aurait peut-être besoin plus tard. Elle commença à se déshabiller rapidement, les yeux fixés au sol devant elle.
Quand sa robe tomba autour de ses pieds, elle pensa que le portrait était là. Et c'est avec un vif agacement qu'elle se sentit observée et prise en pitié par ses yeux désolés qui lui avaient fait si grande impression. Elle se baissa résolument pour ramasser sa robe sur le tapis et la posa sans la plier sur le fauteuil au pied du lit. Comme si la poche qui renfermait le portrait et le tas d'étoffes devait et pouvait l'empêcher de reconstituer l'image de la morte. À peine couchée, elle ferma les yeux et se força à suivre son mari en pensée le long du chemin qui menait à la gare ferroviaire. Elle s'y obligea, poussée par une rébellion hargneuse contre le sentiment qui l'avait tenue sur les nerfs toute la journée, à observer et à étudier son mari. Elle savait d'où ce sentiment lui était venu et elle voulait le chasser.
Dans un effort de volonté qui produisait sur elle une vive surexcitation nerveuse, elle se représenta avec une clarté extraordinaire la longue route déserte dans la nuit. Elle vit le train lugubre sous la marquise vitrée, une pagaille de gens dans ce vaste espace fumeux, mal éclairé, sombrement sonore. Voilà, le train partait. Et comme si elle le voyait vraiment s'éloigner et disparaître dans les ténèbres, elle rentra brusquement en elle, ouvrit les yeux dans sa chambre silencieuse et éprouva une sensation angoissante de vide, comme si quelque chose manquait en elle. Alors, elle sentit confusément troublée que depuis 3 ans peut-être, depuis le moment où elle avait quitté la maison de son père, elle était dans ce vide, dont elle commençait seulement maintenant à prendre conscience. Elle ne s'en était pas aperçue plus tôt, parce que ce vide, elle l'avait rempli uniquement d'elle-même, de son amour.
Il ne m'a même pas dit au revoir, pensa-t-elle. Et elle se remit à pleurer, comme si cette pensée était la seule raison de ses pleurs. Elle se redressa et s'assit dans son lit, mais interrompit brusquement le geste de se lever, main tendue pour prendre son mouchoir dans la poche de sa robe, mais il était désormais inutile de s'interdire, de revoir, d'observer ce portrait. Elle le prit, ralluma la lumière.
Elle se l'était représentée si différente, cette femme. En contemplant maintenant son vrai visage, elle se reprochait les sentiments que le visage qu'elle avait imaginé avait fait naître en elle. Elle s'était figurée une femme plutôt grasse et rubiconde, les yeux rieurs et brillants, encline au rire, aux distractions vulgaires. Et au contraire, maintenant, voilà ce qu'elle voyait. Une jeune femme dont les traits purs suggérait une âme profonde et affligée, différente d'elle, certes, mais pas dans le sens vulgaire d'auparavant. Au contraire, cette bouche semblait même ne devoir jamais sourire, tandis que la sienne avait ri tant de fois, si joyeusement. Et bien sûr, ce visage mat, tel qu'il apparaissait sur le portrait, était moins rieur que le sien, blond et rose.
Pourquoi ? Pourquoi si triste ? Une pensée odieuse fusa dans son esprit et elle détacha immédiatement les yeux de l'image de cette femme, y décelant brusquement un piège tendu non seulement à sa tranquillité, à son amour qui pourtant ce jour-là avait reçu plus d'une blessure, mais aussi à son orgueilleuse dignité de femme honnête qui ne s'était jamais permis la plus petite pensée hostile à son mari. Elle avait eu un amant. C'était peut-être à cause de lui qu'elle était aussi triste. à cause de cet amour adultère et pas à cause de son mari.
Elle jeta le portrait sur la table de chevet et éteignit de nouveau la lumière avec l'espoir de s'endormir cette fois, sans plus penser à cette femme avec laquelle elle ne pouvait rien avoir en commun. Mais en fermant les paupières, elle revit immédiatement, malgré elle, les yeux de la morte, et c'est en vain qu'elle essaya de chasser cette vision. Et elle s'efforça de se remémorer tout ce qu'elle savait concernant l'autre, l'amant, dont elle ne connaissait que le nom, Arturo Valli. Elle savait qu'il s'était marié quelques années plus tard. Il avait quitté le village avec sa femme, puis y était revenu dès que Vittore, remarié, en était parti. Elle jeta le portrait sur la...
Mais de la tristesse des événements qu'elle évoquait, de la lâcheté de Valli et après tant d'années de l'oubli de son mari, lequel, comme si rien ne s'était passé, avait réussi à reprendre le cours de sa vie et à se remarier. De la joie qu'elle-même avait ressentie en devenant sa femme. De ces 3 années passées sans jamais avoir eu une seule pensée pour cette autre femme. De toutes ces choses surgissait soudain aux yeux d'Anna un motif de pitié pour cette femme. Elle revit son image vivante, mais comme de très loin, et il lui sembla qu'avec ses yeux intenses, pleins de tant de souffrance, elle lui disait, hochant légèrement la tête, « Mais moi seule en suis morte, vous tous, vous êtes en vie. »
Elle se vit, elle se sentit seule dans la maison, elle eut peur. Elle vivait, elle, c'était vrai. Mais depuis 3 ans, depuis le jour de ses noces, elle n'avait plus revu, pas une seule fois, ni ses parents, ni sa sœur. Elle qui les adorait, qui avait toujours été docile et confiante avec eux, avait osé aller contre leur volonté, leurs conseils, par amour pour cet homme. En plus de la différence d'âge, des 18 ans que son mari avait de plus qu'elle. Le plus grand obstacle pour son père avait été la situation financière de Brivio, sujette à de brusques changements, étant donné les entreprises risquées dans lesquelles il avait coutume de se jeter avec une confiance téméraire en lui-même et en sa bonne fortune.
Aujourd'hui, pour la première fois, en regardant sans même s'en rendre compte sa vie avec les yeux de la morte, Anna trouva à se plaindre concernant son mari. Oui, c'était vrai. Elle s'était plusieurs fois sentie blessée par la négligence presque dédaigneuse de son mari. Mais jamais comme ce jour-là. Et maintenant, pour la première fois, elle se sentait si seule et si angoissée, séparée de sa famille, dont elle avait l'impression en cet instant qu'il l'avait abandonnée là, comme si en épousant Brivio, elle avait déjà quelque chose de commun avec cette morte et n'était plus digne d'autre compagnie. Et son mari, qui aurait dû la consoler. Son mari même semblait ne vouloir lui rendre aucun mérite du sacrifice qu'elle avait fait de son amour filial et fraternel, comme si cela ne lui avait rien coûté, comme s'il eut droit à ce sacrifice et aucun devoir de l'en récompenser maintenant. Droit, oui, mais parce qu'elle était éperdument amoureuse de lui à ce moment-là. Il avait donc désormais le devoir de la récompenser, et au contraire...
Toujours la même chose. Anna eut l'impression d'entendre les lèvres dolentes de la morte prononcer ces mots. Elle ralluma la lampe et de nouveau, contemplant l'image, fut attirée par l'expression de ses yeux. Avait-elle donc, elle aussi, vraiment souffert à cause de lui? Avait-elle, elle aussi, en s'apercevant qu'il ne l'aimait pas, ressenti ce vide angoissant?
« Est-ce possible ?» demanda Anna à l'image, étouffée par les pleurs.
Et il lui sembla alors que ses yeux, empreints de bonté, intenses de passion, la plaignaient à leur tour, compatissaient à cet abandon, au sacrifice non récompensé, à l'amour qui restait enfermé en elle, comme un trésor dans un coffret, dont il avait les clés, mais qu'il n'utilisait jamais comme l'avare.
Bien, maintenant pour les Italiens, les gens qui aiment beaucoup entendre l'italien, Marie-Hélène va vous lire la dernière strophe en italien.
Un petit passage. Voilà. Pour vous donner une idée de...
L'intensité de la chose.
Oui, voilà.
Je pense que c'est plus intense en italien.
Donc, vous vous souvenez, je dis, elle ralluma la lampe et de nouveau, enfin, bon, bref. Riaccese il lume e di nuovo, contemplando l'immagine, fu attratta dall'espressione di quegli occhi. Anche lei, dunque, davvero, aveva sofferto per lui. Anche lei, accorgendosi di non essere amata, aveva sentito quel vuoto angoscioso. Sì, domandò Anna, soffocato dal pianto all'immagine. E le parve allora che quegli occhi buoni, intensi di passione, la commiserassero a loro volta, la compiangessero di quel abbandono, del sacrificio non rimeritato, dell'amore che le restava chiuso nel seno, quasi tesoro in uno scrigno, di cui egli avesse le chiavi, ma per non servirsene mai, come l'avaro.
Voilà. On va maintenant aborder une autre nouvelle d'Antonio Tabucchi, toute différente, vous allez voir, pleine de poésie et de légèreté. Antonio Tabucchi, je vous rappelle, est né le 24 septembre 1943 près de Pise, le jour des premiers bombardements américains sur la ville. Il est le fils unique d'un marchand de chevaux. Durant ses études, il voyage en Europe pour étudier la littérature. Son enthousiasme l'amènera à découvrir la langue et la culture du Portugal, pays qui deviendra sa deuxième patrie. Il épousera d'ailleurs une Portugaise, Marie-Josée de Lancastre. Il dirige l'Institut culturel italien à Lisbonne. Cette ville servira d'ailleurs de cadre à plusieurs de ses romans. Et il partage sa vie entre Lisbonne, Pise, Florence, voire Paris. Ses livres sont traduits dans une vingtaine de langues et plusieurs de ses œuvres ont été adaptées au cinéma. En 1995, un de ses romans, Pereira Pretan, deviendra un symbole pour l'opposition de gauche à Berlusconi. Il a lui-même été très engagé contre le gouvernement, surtout en 2004, où il figurait sur la liste du bloc de la gauche alternative portugaise des élections européennes. Il est l'auteur également de Nocturne indien, qui a obtenu le prix Médicis étranger en 1987. J'ai compté que 17 de ses romans avaient été traduits en français. Malheureusement, il succombe à un cancer le 25 mars 2012 à Lisbonne à l'âge de 68 ans. La nouvelle intitulée « Les oiseaux de Frangelico » a été traduite de l'italien par Jean-Baptiste Parra, très grand poète, critique et traducteur d'art français.
Voilà. Belle traduction, vous allez vous en rendre compte. Alors, en italien, ça s'appelle « I volatili di Frangelico » et non pas « gli uccelli ». Volatili, vous comprendrez pourquoi. Le premier oiseau arriva un jeudi, à la fin du mois de juin, à l'heure des vêpres, quand tous les moines étaient à la chapelle pour l'office. Fra Giovanni da Fiesole, dans ses conciliabules intérieurs, continuait à s'appeler Guidolino, nom qui était le sien avant son entrée au couvent. Il se trouvait dans le jardin, occupé à ramasser des oignons, et c'était là son emploi, car en quittant le monde, il n'avait pas voulu renoncer au métier de son père, le maraîcher Pietro, qui cultivait des asperges, des courges et des oignons dans le clos de San Marco.
Les oignons étaient de cette variété rouge à gros bulbes, très doux pourvu qu'on les mette à mollir. Mais lui, mais qui provoque d'abondantes larmes dès qu'on les tient dans la main. Il les mettait dans sa robe de bure, pliée en forme de sarrau, quand il entendit une voix qui appelait « Guidolino ». Il leva la tête et vit l'oiseau. Il le vit à travers les larmes qui embuaient ses yeux à cause des oignons. Pendant quelques instants, il fixa sa silhouette agrandie et déformée comme par une loupe extravagante. Puis il cligna des paupières pour sécher ses larmes et regarda de nouveau.
C'était une créature rose et menue, délicate, avec de petits bras osseux d'un jaune pareil à celui des coqs plumés, de pattes très maigres elles aussi, aux jointures proéminentes et aux phalanges calleuses comme chez les poules d'Inde. L'oiseau avait un visage de vieux marmouset, mais tout lisse, avec deux grands yeux noirs et du duvet blanc à la place des cheveux. Et il le regardait, agitant ses bras d'un air las, comme pour mimer un vol qu'il ne pouvait reprendre, si bien qu'on aurait dit un mouvement répétitif et obligé.
Il s'était empêtré dans les branches d'un poirier, anguleuse et pleine de nœuds. L'arbre, en cette saison, était couvert de fruits mûrs, de sorte qu'à chaque mouvement du volatile, une poire tombait et s'écrasait sur le sol. Sa posture était des plus inconfortables, avec les pattes coincées entre deux branches qui, à coup sûr, lui blessaient les flancs, le bréchet de guingois et le cou tordu, car autrement il eût été contraint de regarder en l'air. Incroyable voile en forme de triangle, deux ailes gigantesques partaient de ses omoplates et recouvraient toute la ramure, bercées par la brise avec les feuilles du poirier. Faites de plumes de couleur ocre, jaune et turquoise, mais aussi d'un vert émeraude pareil à celui du martin pêcheur, elles s'ouvraient parfois en éventail jusqu'à ras de terre, puis se refermaient brusquement et disparaissaient l'une sous l'autre.
Fra Giovanni se frotta les yeux du revers de la main et lui dit « Était-ce toi qui m'appelais ?» De la tête, l'oiseau fit une signe que non, et pointant vers lui comme un index l'ongle d'une patte, il le désigna. « Moi ?» demanda Fra Giovanni avec stupeur. De la tête, l'oiseau fit signe que oui. « C'était moi qui m'appelais. » répéta Fra Giovanni. Alors l'oiseau ferma les yeux, puis les rouvrit, toujours en signe d'approbation. Ou peut-être par lassitude, qui sait, car il était recru de fatigue. On le voyait à son visage, aux cernes violets et profonds autour de ses yeux. Et Fra Giovanni observa que la sueur perlait sur son front, tout un lacis de gouttelettes, qui pourtant ne ruisselait pas, mais s'évaporait dans la brise du soir pour se former à nouveau.
Fra Giovanni le regarda et dans un murmure empreint de pitié, lui dit « Tu es trop fatigué. » L'oiseau lui rendit ce regard avec ses grands yeux humides, puis il ferma les paupières et remua certaines plumes de ses ailes, une jaune, une verte et deux bleues. Il avait agité les bleues trois fois de suite, très vite. Fra Giovanni comprit, et comme on apprend l'alphabet en détachant chaque syllabe, il répéta « Tu as fait un trop long voyage. » Puis il demanda « Comment se fait-il que je te comprenne ?» La créature écarta ses pattes autant que sa situation le lui permettait, comme pour dire qu'elle n'en avait pas la moindre idée. « Si je te comprends, c'est que je dois te comprendre, » conclut Fra Giovanni. Et il ajouta « Maintenant, je vais t'aider à descendre. »
Au fond du jardin, appuyé au tronc d'un cerisier, il y avait une échelle. Fra Giovanni partit la chercher. Après avoir passé la tête entre deux barreaux pour la porter à l'horizontale, Il s'en revint près du poirier et l'installa de manière que l'échelon du haut soit à portée des pattes de l'oiseau. Pour grimper avec plus d'aisance, il se défit de sa robe de bure qui entravait ses mouvements et la laissa sur un buisson de sauge près du puits. Tandis qu'il montait à l'échelle, ses yeux se posèrent sur ses jambes maigres et blanches aux poils clairsemés et il pensa qu'elles ressemblaient à celles du volatile. Alors il sourit, car les ressemblances font sourire. Puis, grimpant toujours, il s'aperçut que sa nature s'exhibait à travers la fente de ses chausses et que l'oiseau fixait ce spectacle avec des yeux hagards, comme stupéfaits et apeurés. Fra Giovanni arrangea sa mise et, reprenant en contenance, il lui dit « Oh, tu dois m'excuser, c'est une chose que nous portons, nous, les hommes. » Mais l'espace d'un instant, il revit Nerina et une ferme non loin de sienne, bien des années auparavant, une jeune fille blonde sur une meule de paille. Puis il reprit. Parfois, nous parvenons à l'oublier, mais il faut avoir le sens des nuages et faire preuve de beaucoup de volonté, car la chair est lourde et nous attire vers le centre de la terre.
Il empoigna l'oiseau par les pattes. Il desserra l'étau des branches en veillant à ce que le duvet de la tête ne subisse aucun dommage, puis il lui fit rabattre les ailes. Alors, dans une solide étreinte, il le prit par le dos et le fit descendre jusqu'au bas de l'échelle. Quelle drôle de créature ! Il ne savait pas marcher. Quand il toucha terre, il chancela, bascula sur le flanc, et se mit à gigoter les pattes en l'air comme une poule malade. Puis en prenant appui sur un bras, il haussa les deux ailes et les fit bruire et tournoyer comme celles d'un moulin, probablement pour se relever, mais sans y parvenir, jusqu'au moment où Fra Giovanni le souleva par les aisselles et tandis qu'il le soutenait, les plumes frénétiques agaçaient son visage de chatouille. Mais lui n'en continuait pas moins à guider les pas de l'oiseau en le maintenant presque suspendu, comme on le fait avec les enfants. C'est ainsi qu'ils avançaient et, déployant leur alphabet intelligible pour Fra Giovanni, les plumes lui demandèrent « Qu'est-ce que c'est ?» Ce à quoi il répondit « C'est de la terre, c'est la terre. » Alors, comme ils poursuivaient leur promenade à travers le jardin, il expliqua que la terre est faite de terre, de mottes, et que dans les mottes poussent les plantes, comme les courges par exemple, et les asperges, et les oignons. Quand ils furent près de la voûte du cloître, la créature s'arquebouta. Elle freina des deux pattes, se raidit et déclara qu'elle refusait d'avancer. Fra Giovanni l'installa sur le banc de pierre qui jouxtait le mur et lui dit de l'attendre. L'oiseau, adossé au parement, ne bougea plus, fixant le ciel de ses yeux ébahis.
« Il ne veut pas se mettre à couvert, » expliqua Fra Giovanni au père supérieur. « Il n'a jamais été enfermé. Il dit qu'il en a peur, qu'il ne conçoit d'autre espace que l'air libre et qu'il ignore la géométrie. » Il affirma que l'oiseau était visible pour lui seul, Fra Giovanni, que c'était comme ça et que personne d'autre ne pouvait le voir. Néanmoins, dans la mesure où il était l'ami de Fra Giovanni, en prêtant bien l'oreille, le père supérieur pouvait peut-être percevoir le bruissement de ses ailes. « Tu entends ?» lui demanda-t-il. Puis il ajouta qu'il s'agissait d'un oiseau égaré. Il arrivait d'autres espaces après une longue errance. Ils étaient trois à s'être perdus. Une petite compagnie de créatures à la dérive. Elles avaient vagabondé à travers les cieux et les mystères et l'une d'elles avait chu dans les branches du poirier. Il dit encore qu'il fallait l'héberger pour la nuit, en veillant à ce qu'elle ne puisse reprendre son vol.
Le père supérieur acquiesça et ils réfléchirent à l'abri qui conviendrait le mieux. Certes, il fallait un endroit en plein air, mais qui empêchât l'ascension forcée. C'est ainsi qu'ils s'emparèrent du treillis protégeant les primeurs des souris et des taupes. Un treillis en ficelle de chanvre tressé par les vanniers de Fiesole, expert dans le maniement du fil et de l'osier. Puis ils l'étendirent sur quatre piquets qu'ils plantèrent au bout du jardin contre le mur d'enceinte, de manière à former une sorte de hutte à ciel ouvert. Et sur la terre, dont les mottes étonnaient tant l'oiseau, ils répandirent une couche de paille sèche pour l'y installer. L'oiseau chercha une position confortable pour son petit corps, puis avec volupté, il s'abandonna sur le flanc et dans la fatigue d'un long voyage à travers les cieux, il s'endormit aussitôt. Les moines, à leur tour, allèrent se coucher.
Les deux autres créatures arrivèrent le lendemain à l'aube, alors que Fra Giovanni se rendait au poulailler de son hôte pour savoir s'il avait bien dormi. Dans la lueur du soleil levant, il les vit arriver dans un vol oblique et bas, comme si elles tentaient désespérément de garder de l'altitude sans y parvenir, et devant leurs rase-mottes et leurs effrayants zigzags, il pensa qu'elles s'écraseraient bientôt contre le mur d'enceinte, mais de justesse, elles l'évitèrent et reprirent leur essor, imprévisiblement. L'un des oiseaux, pareil à une grande libellule, se dressa dans l'air et vint se poser sur le mur, les pattes écartées. Il resta un instant à califourchon, comme s'il hésitait à tomber d'un côté plutôt que de l'autre. Puis, la tête la première, il bascula au beau milieu du romarin. Le deuxième, qui ressemblait à une balle étrange, dessina quant à lui deux volutes en forme de boucle, presque une pirouette de saltimbanque. C'était un être tout en rondeur, auquel manquait la base du corps, un buste grassouillé, avec une queue vert pâle, hérissée en brosse, et cette touffe de plumes longue et drue devait lui servir de force motrice et de gouvernail. C'est justement comme une balle qu'il touche à terre parmi les rangées de laitues, rebondissant deux ou trois fois, si bien qu'en raison de sa couleur verte, on aurait dit un plant de salade, un peu plus gros que les autres, qui par une farce de la nature se promenait à travers les semis.
Fra Giovanni hésita un moment, ne sachant qui secourir en premier lieu. Puis il opta pour la grande libellule, qui lui semblait plus mal en point que ce congénère, enfoncée la tête en bas dans le buisson de romarin, tandis qu'une patte gesticulait au dehors pour réclamer du secours. Quand il eut sorti l'oiseau de cette mauvaise passe, il crut vraiment avoir affaire à une grande libellule. C'était du moins l'impression qu'il en retira, ou même un grillon. Oui, il en avait tout l'air, long et maigre comme il était, dégingandé avec des membres si fins qu'on avait peur de les briser en les touchant, et presque translucide, de la couleur du blé quand il est encore vert. Son thorax aussi était celui d'un grillon pointu, en forme de coin, sans une once de chair, rien que les os et la peau, mais avec un plumage si ras que pour un peu c'eût été un pelage. Doré, tout comme la haute houppe de poils luisants qui couvrait son crâne et ressemblait presque à des cheveux. Mais ce n'étaient pas de vrais cheveux. Pour l'heure, dans la position où il se trouvait, il cachait son visage.
Giovanni allongea le bras et d'une main craintive, il redressa l'aigrette. Alors, il put voir deux grands yeux étonnés, clairs comme l'eau, puis un beau visage où le blanc de la carnation s'accordait au rouge des joues. D'une grande finesse de trait, cette face était celle d'une femme, même placée sur le corps d'un étrange insecte. Fra Giovanni lui dit « Tu ressembles à Nerina, une jeune fille que j'ai connue autrefois et qui s'appelait Nerina. » Et il s'employa à délivrer la créature des aiguilles du romarin, avec circonspection, car il avait peur qu'elle se rompe. Et surtout, il craignait de lui briser les ailes, qui ressemblaient vraiment à celles des libellules, mais grandes et fuselées, d'un rose aux reflets bleus et veinées d'or en un lacis plus léger qu'un voile. Il prit la créature dans ses bras. Elle était très légère, autant qu'une botte de paille. En traversant le jardin, Fra Giovanni lui répétait ce qu'il avait dit la veille à l'autre oiseau. L'endroit où il marchait était la terre. La terre est faite de terre et de mottes. Et dans les mottes poussent les plantes comme les courges, par exemple, et les asperges et les oignons.
Il déposa l'oiseau dans la volière, à côté de l'hôte qui s'y trouvait. Puis, avec précaution, il alla recueillir le dernier des trois, le petit replet qui avait atterri au milieu des salades. En fait, il n'était pas aussi rond qu'il en avait l'air. Son corps s'était comme déroulé pour prendre l'aspect d'un hérisson ou d'un huit, ou de ce chiffre sous une forme tronquée, car il s'agissait bel et bien d'un buste orné d'une jolie queue. Il n'était pas plus gros qu'un nourrisson. Fra Giovanni l'attrapa, et tout en lui répétant ses propos sur la terre et sur les mottes, il le soutint jusqu'à la volière. Dès que les autres l'aperçurent, ils se trémoussèrent de joie. Fra Giovanni déposa sur la paille cette boule vivante, et c'est la mine réjouie qui les regarda se donner de légers coups de patte, se lancer des œillades affectueuses et se caresser d'un frôlement de peine. Ils parlaient leur langage ailé et riaient dans l'allégresse des retrouvailles.
Il faisait jour maintenant et le soleil brûlait. Pour que la chaleur ne puisse meurtrir ces chairs étranges, Fra Giovanni abrita un côté de la volière avec des branchages. Puis, après avoir demandé aux oiseaux s'ils avaient encore besoin de lui, auquel cas il leur suffirait de faire bruire leur flûte, il alla ramasser des oignons pour le repas de midi. Au cours de la nuit, la grande libellule lui rendit visite. Fra Giovanni dormait et il la vit assise sur le tabouret de sa cellule et il crut être brusquement tiré de son sommeil alors qu'en fait il ne dormait déjà plus. C'était une nuit de pleine lune et la clarté de l'astre profilait l'embrasure de la fenêtre sur le pavement de briques. Fra Giovanni huma une intense odeur de basilic, un arôme assez fort pour lui procurer une sorte d'ivresse. S'asseyant sur son lit, il lui demanda « Est-ce toi qui sens le basilic ?» L'oiseau posa un de ses longs doigts sur ses lèvres pour lui intimer de se taire, puis il s'approcha de lui et l'embrassa. Alors, déconcerté par la nuit, par l'odeur du basilic et par ce visage candide aux longs cheveux, Fra Giovanni murmura « Nerina, je rêve à toi !» L'oiseau eut un sourire et avant de le quitter, d'un bruissement d'ailes, il lui dit « Demain, il te faudra nous peindre. Nous sommes venus exprès. »
Fra Giovanni se réveilla à l'aube comme d'habitude et aussitôt après les laudes, il se rendit chez ses hôtes pour choisir son premier modèle. Quelques jours auparavant, avec d'autres convers qui lui servaient d'aide, il avait peint dans la 23e cellule du couvent la crucifixion du Christ. Et il avait tenu à ce que ses collaborateurs badigeonnent le fond d'un mélange d'ocre, de noir et de cinabre, parce qu'il voulait que ce soit la couleur du désespoir de Marie qui, d'un geste pétrifié, désigne son fils mis en croix. Mais maintenant qu'il avait à sa disposition cette petite créature ronde, à la queue aussi insaisissable qu'une flamme, pour soulager la douleur de la Vierge et pour lui faire comprendre que la souffrance de son fils était la volonté de Dieu, il pensa représenter des êtres divins, susceptibles de river les clous qui transperçaient les mains et les pieds du Christ. Désireux de peindre ces instruments du destin céleste, il transporta donc l'oiseau dans la cellule, l'installa sur un escabeau, le ventre en bas, pour qu'il ait l'air de voler. Et dans cette position, il le représenta sur les bords de la croix, plaçant dans sa main droite un outil pour enfoncer les pointes de métal. Et les frères qui avaient préparé la fresque en sa compagnie contemplait maintenant avec des yeux médusés cette étrange créature que son pinceau faisait surgir à une vitesse incroyable des ténèbres de la crucifixion. Et tous en cœur, ils s'exclamaient « Oh !»
Ainsi passa la semaine pour Fra Giovanni. Il peignit et en oublia même de manger. Il ajouta une figure supplémentaire à une fresque pourtant achevée, celle de la 34e cellule, où il avait peint le Christ au jardin de Gethsémani. L'œuvre semblait déjà finie, comme s'il ne restait plus d'espace disponible. Mais il trouva une surface vacante au-dessus des arbres de droite, et c'est là qu'il peignit la grande libellule qui avait le visage de Nerina, avec ses ailes translucides et dorées. Dans sa main, il mit un calice dont elle ferait offrande au Christ.
Puis un dernier, il peignit l'oiseau qui était arrivé le premier. Et comme il voulait un mur ample qui permît une bonne perspective, il opta pour celui du couloir du premier étage. Il peignit d'abord un portique avec des colonnes et des chapiteaux corinthiens, puis le raccourci d'un jardin derrière une palissade. Enfin, il fit poser l'oiseau. Et comme il lui demandait une génuflexion, la créature prit appui sur un siège pour ne pas tomber. Il lui demanda aussi de croiser les mains sur la poitrine, en signe de révérence, et lui dit « Je te couvrirai d'une tunique rose, car ton corps est trop ingrat. Je ne dessinerai pas la Vierge avant demain, il te suffit de tenir bon cet après-midi. Ensuite, vous pourrez repartir. Je vais faire une annonciation. »
Le soir même, il avait fini. Le crépuscule tombait et il se sentait un peu las. Il était la proie de la mélancolie que procurent les choses une fois terminées, quand il n'y a plus rien à faire et que le temps a passé. Il se dirigea vers la volière et la trouva vide. Il ne restait que 4 ou 5 plumes accrochées au filet de chanvre et qui flottaient dans la fraîcheur du vent descendu des coteaux de Fiesole. Fra Giovanni crut sentir une intense odeur de basilic, mais dans le jardin, il n'y avait pas de basilic. Il y avait des oignons, par contre, et depuis une semaine qu'ils attendaient la récolte. Ils se gâtaient peut-être, et bientôt ne seraient plus bons pour la soupe. C'est pourquoi il partit les arracher avant qu'ils ne pourrissent. Bravo pour les auteurs.
T'as mis toutes là, tu les as toutes mis, tu les as fait défiler.
Je les ai passées en douce, pendant que vous regardez.
Oui, bah. Voilà. Nous avons terminé.
Très bien, magnifique.
Ben, si vous avez des questions à poser, si vous voulez. Il est. On avait prévu 1 heure, c'est ça, hein? Oui. Bah, c'est-à-dire que il y a le contraste entre les deux nouvelles, quoi. Vraiment, faut dire qu'il y a une différence d'époque, hein, quand même. C'est pas du tout la même façon d'écrire, en fait. C'est... Parce qu'en fait, Tabouki est mort il y a 2 ans. Hein. Et que, en fait, donc, Pirandello est mort en 1936, et donc, c'est vraiment
comment
pas.
Comment ça s'appelle?
Alors, Antonio Tabucchi, ça s'appelle Les oiseaux de Frangelico, mais. Donc, voilà, tu lis en italien, et c'est traduit surtout par Jean-Baptiste Parra, qui est lui-même un grand poète. Alors, ça, je ne sais pas si. Je suppose qu'on se rend compte que c'est un poète qui traduit ça, je ne sais pas, la façon dont il.
La nouvelle de Pirandello,
donc qui s'appelle Avec d'autres yeux. On avait 3 nouvelles, on avait le choix. Alors là, c'est dans l'édition bilingue. C'est une illustre inconnue, Aurore Ménéla Gramont. C'était collection intéressante pour quand on apprend l'italien, puisqu'on a toute. Enfin, on a la partie
italien.
Voilà, on a d'un côté l'italien, de l'autre le français. Oui. Alors ça, tu peux les trouver où tu veux. Et donc, il y a d'autant plus qu'il y a alors tout un travail sur le vocabulaire, ce que donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'italien, c'est épatant, surtout ceux qui ont fait du latin, bien sûr, donc on retrouve très bien. Mais moi, je pense, enfin, je serais bien contente que quelqu'un, des gens ici très amateurs de poésie, de lire Luigi Pirandello, ses nouvelles, avec un autre traducteur. Colette, tu connais pas ?
Je l'ai lu pour un an, c'est un gros bouquin.
Oui,
parce que je trouve.
Oui, mais tu te souviens pas quelle
est... Non.
Bah, tu pourras peut-être regarder.
Parce que là, il nous a semblé que la traduction était lourde.
On a d'ailleurs passé...
Il y a des phrases qui sont très longues, sans beaucoup de ponctuation, et très difficiles à dire.
Oui, on a un peu... Enfin, on n'a pas changé le texte, mais on l'a allégé.
On l'a allégé.
Je pense qu'il y a sûrement meilleure traduction que ça, quoi. Comment ? Ah, merci. Non, mais...
Non, alors voilà, vous avez vu ma grand-mère.
Voilà. Elle a eu l'idée de cette...
Les vieilles photos. Ouais.
Oui.
C'est très bien d'entendre ça.
Comment ? Ben oui.
Ben. Très, très bien. Merci à nos...
Voilà.
Merci.
Bah, ça donne peut-être envie de lire.
Cet instant.
Alors, André, oui. Ouais. Il est beaucoup plus célèbre pour le théâtre et il y a des raisons. Hein. Ben voilà, et comment ça vous a semblé cette nouvelle, justement, parce que... Voilà, alors, c'est-à-dire, par exemple...
L'amertume de la vie, c'est l'incompréhension entre les êtres,
L'absence d'amour.
Mais est-ce que c'est vraiment de l'absence d'amour ? C'est
le... une forme d'amour.
Voilà, c'est ça, c'est une forme d'amour.
Oui, ouais. Elle, oui.
C'est ce que le théâtre de Pirandello ne cesse d'interroger.
C'est ça, tout le temps.
Une grande tristesse, hein.
Oui, c'est...
Là, ça permettait le monologue intérieur.
C'est ça.
Très touchant.
Ouais, très touchant, oui. Cette femme qui rentre en elle-même pour...
Question d'identité aussi.
Et question d'identité. Et bien qu'on retrouve chez Pirandello, oui, il y a ça. Ouais. Ces interrogations sans fin, il n'y a pas de réponse.
Ce qu'il y a, c'est qu'on ne saura pas dans le deuxième texte. Sont partis les oiseaux.
Alors là, on nage dans la poésie la plus pure. Vraiment.
Ils sont partis dans les.
Antonio Tabucchi, d'ailleurs, j'écoutais hier soir. Attends, peut-être que certains d'entre vous, c'était une émission à France Culture. Bernard Coman a été reçu, oui, donc à minuit par Alain Weinstein. Et il vient de traduire les dernières nouvelles de voyage de Tabucchi. Et il a parlé de Tabucchi d'une manière admirable, parce que c'est un de nos plus grands écrivains, pas seulement italiens, mais je veux dire, il a une dimension extraordinaire. Je crois qu'on ne se rend pas encore assez compte, parce qu'on n'a pas tout étudié de son œuvre. Donc, il y a Nocturne indien qui a été mis en film. Et Tabucchi, c'est vraiment... il y a plusieurs d'entre vous qui connaissent... Pereira Pretens, un livre politique, mais qui est passionnant. Je me souviens de Angelo qui avait fait une suite. Il avait imaginé une fin. Ça avait été un très bon moment. Sostiene Pereira. Pereira Pretens, oui. Dans un cours d'italien. Et Angelo nous avait fait quelque chose de formidable. Tu l'as gardé ? Ah ben, on aimerait bien, vraiment, c'est ça. Tu te souviens, Colette ? Et Laure, tu l'as, oui.
Tout le monde était très marqué par cette histoire, ce
ouais.
Politique,
là. Ben, voilà.
Justement,
comme elle a rappelé, Françoise,
tout le monde se souvient.
L'anti-Berlusconi.
Vraiment...
Et il disait, Bernard Coman, hier soir, qu'en fait, il était tellement écœuré de l'état de détresse psychologique des Italiens qui étaient tous amoureux, amourachés de ce Berlusconi, qu'il a dit « je ne vivrai plus jamais dans ce pays ». Et c'est une des raisons pour laquelle il est parti en France d'abord. Donc, et puis après... mais pour lui, c'était une honte profonde d'être confronté à cette médiocrité, quoi. Voilà.
Ça, c'est pas arrangé. Hein.
Bon, voilà. Voilà. Ah oui. Oh, ben, alors, on va parler politique, mais en tout cas, c'est vrai que. Mais quand ceux qui n'ont pas lu Pereira prétendent. Il faut être au courant, parce que, bien entendu, tout est caché avec une subtilité. On n'imagine pas, a priori, que ce soit Berlusconi, hein, pas du tout. C'est tout le discours qui est... Je veux dire, c'est fait avec...
J'ai du mal à trouver Berlusconi dans Sostiene Pereira. Je trouvais tous les régimes d'oppression, fascistes, puis ça faisait... C'était trop directement Salazar, donc l'histoire...
Oui, mais il ne faut pas oublier que... Oui, mais toi, je comprends ce que tu veux dire.
On y voit Berlusconi,
c'est lui qui l'a dit, et lui qui s'en est expliqué. Mais seulement, comme c'est un poète, il était intimement persuadé de la nocivité de Berlusconi. Avec son talent, il a écrit quelque chose.
Il aurait pu devenir un dictateur lui-même. C'est très possible. Si au lieu de pouvoir, il pouvait devenir un dictateur, c'est sans doute. Mais
non, je ne sais pas. Non, mais tu as le droit de penser ça. Moi, je ne sais pas. À l'époque, est-ce qu'on en avait parlé de Berlusconi quand on le disait ? Je ne sais pas.
Non, mais un régime, franchement, d'oppression, ça, oui, ça.
Mais il ne faut pas. Un poète, enfin, un écrivain a tous les droits, enfin, je veux dire.
On a les droits de ne pas le suivre. Hein.
Mais attends, il ne prononce pas une seule fois le nom de Berlusconi dans son roman. Hein. Jamais. Ça se passe, en plus, ça se passe au Portugal, ça se passe à Lisbonne. Et beaucoup de gens n'y pensent jamais que c'est ça. Mais seulement, depuis qu'il est mort, et Bertrand Cauban est un de ses grands traducteurs et spécialistes, on commence, vous savez, quand, il n'y a que 2 ans qu'il est mort. Donc il y a des œuvres posthumes qui ressortent. Il a été très très mal vu en Italie.
Non, moi, il faut me prendre comme je suis, hein. Je n'ai pas d'imagination. Mais...
écoute...
Je n'ai pas vu Berlusconi. Bon.
Bah écoute, sinon, moi je te dis ce qu'on. Enfin, parce que parce que je l'ai lu. Quoi.
On ne peut pas le réduire à Berlusconi.
Non plus. Mais en quelle année il a écrit Pereira?
Pereira prétend, alors attends, oui, tu l'as noté.
Je sais pas. En 1995.
95. Mais par exemple, hier soir, Bernard Cauman a justement insisté là-dessus, sur le fait que. Mais il ne le disait pas à l'époque, il parlait de Berlusconi, il le disait pas.
Sorti à ce moment-là.
Quoi. Il le disait pas. C'est une vision de, d'un homme de, qu'il n'aime pas.
Je ne sais pas, une vision du traducteur. Parce que, bon, Tabucchi était vraiment...
Ah non, ce n'est pas une vision du traducteur.
Un opposant féroce à Berlusconi, ça c'est clair.
Oui, ben oui.
Mais la nouvelle...
Mais c'est pas une nouvelle, hein, c'est un roman, il est assez important. Hein.
Ouais.
Ben, un petit roman, tu entends par le. C'est pas un roman épais, quoi. Oui.
Non.
Vas-y, mais.
Ça vaut
genre littéraire. C'est libre à chacun de trouver. Moi, je sais pas. Ça, on est libre chacun de trouver qu'un homme a du talent ou pas. Moi, je me mets. Je peux pas juger. C'est tout. Bon.